son visage et ses cheveux. La chienne était couchée sur le flanc. Le sang s'écoulait par pulsations de plus en plus faibles de sa carotide sectionnée. Pierre-Marie la regarda agoniser et dans son cœur brisé il ne ressentit d'abord qu'une tristesse mortelle. Le désir de ne plus rien savoir de ce monde et des hommes qui l'habitaient. Il se résignait à subir le sort qui l'attendait sans peur ni regret, mais il entendit le rire joyeux des deux frères. Il sentit le poids de leur regard bleu posé sur lui. Et quand ils s'approchèrent de lui et le saisirent par le bras, il se mit à crier et à supplier qu'on le laisse vivre encore. La panique le faisait suffoquer, et il ne percevait plus rien qu'à travers l'opacité d'un voile écarlate, et il se retrouva soudain, dehors, dans la nuit froide, marchant sur le chemin qui le ramenait au sien, en serrant le cadavre de la petite chienne contre lui, hébété et fiévreux, comme au sortir d'un cauchemar abominable dont il ne conservait que de vagues souvenirs, les hurlements du suppliant, l'éclat furtif d'une lame, l'éclat bleu d'iris maléfique, la merveilleuse lumière rouge et le miracle de sa soudaine liquéfaction, la terreur, l'humiliation, l'impossible déni et le silence de Dieu, et l'irruption soudaine de la rage, la métamorphose de la terreur et de l'humiliation en une rage sacrée qui faisait cesser le cauchemar, à ceci près que le cauchemar ne cessait pas. Au monstre disparu se substituait une nouvelle monstruosité étrangère et pourtant intime, méticuleuse, acharnée, ivre de sa propre jouissance, et tout était aussi atroce qu'avant. Le tisonnier, le couteau, les yeux bleus, l'infection de cette odeur d'abattoir et la nausée força Pierre-Marie à s'agenouiller dans la neige sur laquelle il cracha, en hoquetant sans parvenir à vomir ni à se débarrasser du goût de sang, de crasse et de semences qui lui emplissait la bouche. Il ramassa un gros paquet de neige qu'il se mit à mâcher, et se remit en route en titubant, la chienne, inerte et déjà raide, dans les bras, et il cracha encore parce que la neige fondue dans sa bouche, la neige si pure et blanche et froide avait maintenant elle aussi un goût tiède de pourriture. Et il se mit à pleurer sur la petite chienne, les larmes mouillant son pelage parce qu'elle était maintenant la seule chose au monde qui demeura à l'abri de la souillure. Il finit par arriver chez lui à l'aube. Il ouvrit la porte de la maison avec fracas et appela ses parents. En le voyant tout couvert de sang, sa mère se signa et leva les bras au ciel. « Qu'est-ce qui t'est arrivé encore ?» demanda son père. « Tu as tué la chienne, imbécile !»« J'ai tué les frères Dominati. » Pierre-Marie ne s'était à vrai dire pas contenté de les tuer. On raconte encore que ceux qui rentrèrent les premiers dans la bergerie où se trouvaient les cadavres se signèrent devant ce qui ne pouvait être que l'œuvre du démon. Une épaisse couche de sang gelé recouvrait le sol, de larges taches brunâtres s'étalaient sur les murs. Les deux frères gisaient sur le dos, le pantalon baissé sur les chevilles, de leurs paupières grandes ouvertes sur des yeux d'une étrange couleur uniforme où l'on ne discernait plus ni iris ni pupille, jaillissait comme une longue larme gélatineuse parcourue de filaments vermillons. Leur bas ventre était réduit en bouillie par des tirs de chevrotine. Ils avaient le crâne défoncé et portaient la marque de multiples coups de couteau sur les membres et la poitrine. Ils avaient été châtrés, les deux verges aux chairs livides étaient posées sur la tablette de la cheminée. Leurs testicules avaient été enfoncés soigneusement dans leurs orbites vides, mais leurs yeux demeurèrent introuvables. « Tu as tué les frères Dominati ?»«
Toi ?»«
Oui, père. »«
Moi ?»
Et que comptes-tu faire?
Te rendre?
Non, père.
Je ne me rendrai pas.
D'accord. Nous prendrons nos dispositions. Et Pierre-Marie comprit que pour la première fois, son père était fier de lui. Je ne suis pas sûr que Philippe se soit senti particulièrement fier des premiers exploits de son fils. Pendant les vacances de printemps de son année de terminale, Alexandre, au lieu de réviser son bac, choisit plutôt de braquer une épicerie dépôt de pain située à deux rues de chez lui, celle-là même où il s'était approvisionné en sucreries le plus souvent offertes par le propriétaire durant toute son enfance. On pourrait soupçonner que le